Martin Luther pour que Martin Luther puisse s'excuser et nier ses 95 thèses. Ce qu'il n'a pas fait, il n'a jamais fait. Donc cette semaine est une semaine assez importante parce que nous célébrons les 500 ans de la réforme protestante. J'aime bien penser que nous sommes depuis 500 ans en train de protester. L'Église doit être cela, l'Église doit être en constante réforme, en constante ouverture des dialogues. Le Cèdre, cette Église ici, est une Église évangélique de réveil issue de la réforme protestante. C'est-à-dire, ou mieux, nous sommes fils et héritiers de la réforme protestante. Nous sommes protestants. Et les deux personnages principaux de la réforme sont Martin Luther et Jean Calvin. Martin Luther et Jean Calvin, ils ont établi quelques bases, quelques fondements à notre foi. Ces fondements, ces bases qu'ils ont établies à notre foi et à notre compréhension de l'Évangile ont été appelés les cinq solas. Les cinq solas. Solas est un latin, est un mot latin pour sol, seulement. Alors, quelles ont été les cinq solas? Sola scriptura, sola fide, sola gracia. Désolé pour mon accent latin là. Solus Christus et soli Deo gloria. C'est-à-dire, les Écritures sol, la grâce sol, la foi sol, Christ seul et à Dieu seul la gloire. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de discuter des cinq solas de la réforme. C'est pourquoi je n'ai choisi qu'un. Aujourd'hui, j'aimerais souligner le solus Christus. Christ seul. Christ seul. Christ seul. Amen. J'aimerais lire avec vous la lettre de 1 Jean. Le chapitre 4, du verset 14 au verset 21. 1 Jean 4, le verset 14 au verset 21. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, on peut... Je vais juste souligner ce verset. Dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait chasse la peur. Quelle peur? Quelle peur? C'est quoi? Quelle peur? Peur de quoi, en fait? Peur de quoi? Peur... Quelle est cette peur que l'amour chasse? Jean ici... Il est en train de donner une réponse au récit de la création en Genèse 3. Et au récit, et en Genèse 3, la Bible dit que Dieu, il parcourait le jardin, il cherchait Adam pour le thé de l'après-midi, pour en goûter, mais il n'a pas trouvé Adam. Et puis Dieu, il lui dit, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et quelle était la réponse d'Adam? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Les spécialistes de la religion et les anthropologues et compagnie, ils diront que la peur et la culpabilité sont une invention de la tradition judéo-chrétienne. Moi, je ne suis pas d'accord. À mon avis, je pense différemment. Je pense que la peur et la culpabilité font partie de notre condition humaine, bien avant n'importe quelle expérience religieuse, qu'elle soit judaïsme, christianisme et toutes sortes d'ismes là. En fait, toute expression religieuse est une tentative de l'être humain de trouver une réponse, de donner une réponse à cette peur, à cette culpabilité qui a son origine au jardin d'Éden. À ce moment-là, qui était censé être un moment, une expérience d'amour, d'intimité, d'être censé un moment agréable, devient une expérience d'hostilité, de culpabilité et de peur. La proximité avec Dieu est perdue. On s'enfuit de lui. On s'est caché de lui. Moi, maintenant, je ne suis plus ce que je devais être. Je ne vis plus comme je devrais vivre. Je ne fais plus ce que je devrais faire. J'ai conscience de ma finitude, j'ai conscience de mon imperfection, j'ai conscience de mes fautes, j'ai conscience de mes péchés, j'ai conscience que je ne suis pas à l'auteur d'une volonté, d'un plan divin. Et c'est justement cette conscience-là qui produit en moi la peur et la culpabilité. Peur de quoi? Peur du châtiment de Dieu. Peur de Dieu. Voilà pourquoi je me suis caché. Et combien de fois ne vivons-nous pas avec cette suspicion de châtiment? Combien de fois ne vivons-nous pas avec cette suspicion de châtiment, d'angoisse, de peur que quelque chose peut nous arriver? Et pire encore, que nous avons... que nous croyons que ce qui peut nous arriver, ou que ce qui va encore nous arriver, ou que ce qui s'est déjà arrivé, c'est parce que nous l'avons mérité. Et c'est justement dans ce contexte-là que se construisent les religions. Comment est-ce que je me débarrasse de cette peur? Comment est-ce que je me débarrasse de cette culpabilité-là? Comment vivre d'une telle manière que je n'ai plus besoin d'avoir peur de Dieu, ni peur du châtiment de Dieu? Comment avoir une conscience qui soit en paix et un état intérieur qui soit en paix et tranquille? Dans la tradition d'Israël, la structure religieuse, elle a fonctionné comme ça. Sacrifice d'animaux tous les jours. Surtout les jours du pardon, le Yom Kippour. Une fois par an. Donc tous les jours, les prêtres, ils sacrifiaient des animaux. Et en dépendant du péché que tu as commis, tu devrais offrir un sacrifice ou une offrande. Si tu étais riche, si tu étais pauvre, c'était un autre type d'offrande, un autre type de sacrifice. C'est comme si tu disais à Dieu, « Seigneur, je sais que je suis culpable. Et je sais, Seigneur, que je mériterais d'être puni. » Donc voilà mon sacrifice afin d'apaiser ta colère et afin que tu ne te retournes pas contre moi. Ainsi vécut la nation d'Israël pendant de nombreuses années, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et quand Jésus arrive, quelle était l'affirmation, la première affirmation qui a été faite à son sujet? Voici l'agneau de Dieu qui ôte ou qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui est le sacrifice ultime et parfait pour toujours. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà donné sa vie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus. Et puis l'apôtre Paul lui dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'Évangile est cette bonne nouvelle. L'Évangile est cette bonne nouvelle. Jésus est mort pour toi. Jésus est la plus grande expression de l'amour de Dieu pour toi. Jésus est l'affirmation la plus claire que tu n'as plus besoin d'avoir peur de Dieu. Tu n'as plus besoin de te cacher de Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir peur du châtiment de Dieu. Au contraire, maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et l'appeler Père. Abba, Père. Abba, Père. Celui qui s'approprie de l'amour de Jésus n'a plus de peur, n'a plus de culpabilité. Pourquoi? Parce que tout est sur la croix et c'est tout. Amen. Plus ou moins, n'est-ce pas? Parce que combien de fois n'ai-je pas déjà entendu? Je sais, Léo, que Dieu m'a pardonné. Mais je n'arrive pas à m'approprier de ce pardon. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais moi, je n'arrive pas à me pardonner. Pourquoi, Léo, est-ce que Dieu est en train de faire cela avec moi? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de me punir? Est-ce que je dois encore quelque chose à Dieu? Est-ce qu'il m'en veut? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans cette situation de souffrance? Et parfois, nous fonctionnons comme ça, n'est-ce pas? Et la religion, elle peut, oui, être un instrument de manipulation des consciences à travers la culpabilité et la peur. C'était exactement cela qui s'est passé à l'époque de Martin Luther et des réformateurs. Cette culture de la peur, cette culture du châtiment, de la culpabilité qui était imposée sur ces personnes-là. L'Église, à l'époque, elle enseignait la chose suivante. Dieu pardonne tes péchés. Et quand tu t'es fait baptiser, tous tes péchés sont effacés. Dieu pardonne tes péchés. Mais les péchés que tu as commis jusqu'au jour de ton baptême. Et ce que tu as commis hier. Et ce que tu as commis la semaine passée. Et tout ce que tu as continué à faire après que tu te sois fait baptiser. Alors là, nanana, on ne va pas faire comme si de rien n'était. Tu peux même demander pardon à Dieu. Les prêtres, les pasteurs peuvent te pardonner, mais il y aura une pénalité. Il y aura une punition. Oui, il y aura une punition. Et afin de payer cette pénalité-là, il faudra que tu fasses quelques pénitences. C'est-à-dire, quelques bonnes actions afin de compenser le mal pratiqué. Donc, si tu veux t'échapper des punitions, des conséquences de tes péchés, fais la pénitence. Mais il se peut que tu n'y arrives pas. Et si tu n'y arrives pas à ta mort, tu n'iras pas au paradis. Tu iras au purgatoire. Et au purgatoire, c'est très chaud. C'est terrible. C'est pas si cool que ça. C'est justement pour purguer les conséquences de tes péchés ici sur terre. Alors, Léo, combien de temps je vais rester au purgatoire? Ça dépend. Ça dépend du péché que tu as commis. Si tu as tué quelqu'un, c'est une certaine période, 500 ans, 1000 ans. Si tu as laissé tomber ton pain pendant que tu mangeais une fondue, ça dépend si tu es un bon vaudois, un brésilien comme moi. Après ça, on va équilibrer. Mais je ne sais pas, 20 ans. 1000 ans. Vous imaginez rester 1000 ans au purgatoire avant d'aller au paradis, tout simplement parce que tu n'as pas réussi à faire tes pénitences. C'est compliqué. Mais nous pouvons trouver une solution. On peut toujours trouver une solution. Hein? Il faut que tu achètes des indulgences. Hein? Tu vas acheter des indulgences. Donne une offrande à l'Église que nous allons diminuer cette période-là. je suis en train de raconter comme c'était en 1500, d'accord? Pas, hein? Voilà, il est en train de prêcher ça. Je suis en train de raconter tout simplement, d'accord? Donne une offrande, on va essayer de diminuer cette période. Donc, au lieu de rester 1000 ans au purgatoire, tu ne feras que 200 ans, ou 150 ans, ou on verra. Donc, c'était une affaire très lucrative. Puis, en plus, il y a eu certains qui ont commencé à vendre des indulgences pour ton grand-papa, pour ton père, pour ton arrière-grand-père, pour tes enfants. Donc, tu fais tes pénitences, tu achètes des indulgences et tu vis dans cette vie. Pourquoi? Pour essayer de soulager ton séjour au purgatoire. Donc, c'est devenu une méthode extraordinaire et diabolique d'arrécadation, de collecte, de manipulation, de structuration des pouvoirs, de contrôle et tout. Et c'est à ces moments-là que les réformateurs, ils apparaissent. Martin Luther, il arrive. Il dit, arrêtez de ça, arrêtez de bêtises. Plus besoin de payer des pénitences, plus besoin d'indulgence. Et Christ seul, Christ seul. Le sang de Jésus suffit. Jésus-Christ est suffisant. Il a déjà payé. Il n'existe pas Christ plus indulgence. Christ plus purgatoire, Christ plus pénitence. Il avait un dicton à l'époque qui disait, quand une monnaie tombe dans les coffres de l'église, une âme sort du purgatoire. C'est vrai. Quand une monnaie tombe dans les coffres de l'église, une âme sort du purgatoire. Donc, c'était très lucratif pour l'Église. Mais maintenant, les réformateurs, ils viennent et ils disent, pas besoin de faire rien de ça. Jésus est mort pour toi. Il a déjà tout payé. Il a déjà tout fait. C'est tout bon. Christ seul, solus Christus. Christ seul. Car ceux qui ont peur du châtiment doutent encore de l'amour de Dieu. Ceux qui ont peur du châtiment doutent encore de l'amour, du sacrifice de Jésus. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur de Dieu, non. Je n'ai pas besoin d'avoir peur du châtiment de Dieu, non. Je n'ai pas besoin de me cacher de Dieu, non. Je n'ai pas besoin de m'acheter des indulgences, non plus. Alors, de quoi ai-je besoin? De rien. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ seul. Tu n'as besoin que de Jésus. Que de Jésus, et c'est tout. Ainsi donc, notre relation avec Dieu, elle est à l'abri. Elle est sécure, elle est à l'abri dans l'amour de Dieu. Elle est à l'abri dans l'amour de Jésus. Mais alors, ok, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Bon, rien. Parce que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Donc nous n'avons plus de culpabilité, plus peur de Dieu, plus peur du châtiment de Dieu. Nous faisons quoi alors? Nous nous reposons tout simplement dans l'amour de Dieu. Nous nous reposons tout simplement dans l'amour de Jésus-Christ. Nous nous jouissons du sacrifice de Jésus. Et quand nous nous reposons dans l'amour de Jésus, quand nous réalisons que Jésus, que Dieu nous aime, que nous réalisons que Dieu est pour nous et non pas contre nous, que nous réalisons que Dieu ne fait pas partie du problème, mais il est la solution, que nous réalisons que Dieu n'est pas en train de me menacer, Dieu n'est pas en train de nourrir ma culpabilité en me menaçant, mais que Dieu est celui qui me murmure, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que nous réalisons tout cela, frères et sœurs, Et nous nous en approprions. L'amour de Dieu nous envahit, nous inonde et nous transforme. Amen. Puis l'apôtre Jean, il vient, il dit, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. L'amour de Dieu me saisit, l'amour de Dieu me transforme et l'amour de Dieu déborde de moi. Le cheminement de l'évangile de Jésus, c'est ce cheminement d'amour. Et quand nous aimons, nous ne faisons pas mal aux autres. Quand nous aimons, nous n'abusons pas des autres. Quand nous aimons, nous ne produisons pas la souffrance. Nous n'engendrons pas la souffrance aux autres. Quand nous aimons, nous ne blessons pas aux autres. Quand nous aimons, cette expérience d'amour vient de l'intérieur et elle va vers l'extérieur. Puis tu me dis, ok Léo, si c'est Christ seul, hein, Christ seul, si c'est Christ seul effectivement, alors pourquoi est-ce que tu viens à l'église tous les dimanches? Parce que je le veux. Parce que j'aime être nourri par la parole de Dieu. J'aime adorer Dieu ensemble. Ok, alors si c'est Christ seul, effectivement, alors pourquoi est-ce que tu donnes ton argent à l'église? C'est parce que tu as peur de perdre ton travail? C'est parce que tu as peur que Dieu t'enlève de ton travail? Ou c'est parce que tu veux négocier des bénédictions avec Dieu? Tu veux avoir plus de bénédictions avec Dieu? Bon, si c'est ça, on n'a rien compris de l'évangile. Je donne mon argent à l'église parce que je le veux. Parce que je suis reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et parce que c'est mon principe biblique de gérer mes finances. Ah d'accord Léo, mais alors pourquoi est-ce que tu fais de bonnes actions? C'est pour gagner la faveur de Dieu? Non, c'est pour aider mon prochain, quoi. Ce que je le fais, je ne le fais pas, je ne le fais plus parce que j'ai peur de Dieu, parce que j'ai peur du châtiment de Dieu, parce que je le fais parce que mon cœur a changé, quoi. Je le fais parce que mon cœur a changé, parce que Dieu, il m'a délivré de cette prison, de la culpabilité et de la peur, et de ces jeux abominables de manipulation et de compensation des biens et mal. Tout est sur la croix du calvaire. Amen. Tout est sur la croix du calvaire. Christ seul, Christ seul. Comment vivriez-vous si effectivement vous n'aviez plus de peur du châtiment de Dieu? Trois réponses possibles. Première réponse. Je ne peux même pas imaginer. Deuxième réponse. Je pense que j'allais vivre comme n'importe quoi. Plus de scrupules. Hein? Je ne veux pas être puni de toute façon, alors je vais vivre comme si des démons n'existaient pas. Troisième réponse. Je n'ai même pas besoin d'imaginer, Léo, parce que je vis déjà comme ça, sans la peur de Dieu. Et je ne vis pas comme n'importe quoi, sans scrupules. Parce que l'amour de Dieu, parce que je me suis approprié de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je suis conscient que je suis une fille et que je suis un fils bien-aimé de Dieu. J'ai rencontré le vrai amour. J'ai rencontré le véritable amour. Je connais cette expérience d'aimer et d'être aimé dans ma relation avec Jésus. Combien parmi nous ont peut-être grandi dans une famille ou dans une église où tu as été éduqué avec un discours manipulateur de culpabilité, de peur et de châtiment? Pas besoin de lever les mains, mais combien parmi nous n'ont pas grandi dans un tel environnement? Combien parmi nous n'ont jamais entendu « Tu as perdu ton travail ?» C'est parce que tu n'as pas donné la dîme à l'église. Dieu en train de te punir. Faites attention avec ta santé. Hein. Combien parmi nous n'ont jamais entendu « Tu n'as pas été guéri » C'est parce que tu n'as pas prié assez. Dieu n'a pas entendu ta prière. Dieu n'a pas entendu ta prière. Tu n'as pas fait assez. C'est médiéval, hein? C'est Moyen Âge. Mais c'est encore prêché en 2017. Il y a beaucoup qui ont une spiritualité névrosée. Une fois, j'ai discuté avec une personne qui était en train de passer par une crise personnelle et tout. Et puis la discussion tournait en rond. J'ai peur que Dieu... Mais je ne sais pas si Dieu... Ici, Dieu... C'était un Dieu paralysant. Et j'ai dit, je peux être honnête avec toi. Tu ne crois pas que ce Dieu-là... En tout cas, c'est lui que tu es en train de décrire. Il est en train de te faire du mal. Regarde-toi. Tu es paniqué. Tu es angoissé. À cause de quoi? À cause de Dieu. Allons essayer de changer cette image que tu as de Dieu là. Parce que sinon, d'ici peu, tu auras un burn-out spirituel, quoi. Tu crois vraiment que c'est la vie en abondance que Dieu a pour toi? Oui, c'est vrai, effectivement. Et je me souviens d'une autre histoire, ça c'est drôle, quoi. Je connais une personne, elle est arrivée à l'église. Pas celle-ci, hein. Cette église est parfaite. Hein? Elle est arrivée à l'église avec les bras cassés. Et puis le pasteur, il vient, il lui dit, parce qu'elle a joué au foot, hein, puis elle s'est cassé les bras. Et puis le pasteur lui dit, tu as cassé les bras, hein? Tu jouais au foot, n'est-ce pas? Oui, pasteur, je jouais au foot. C'était dimanche matin, n'est-ce pas? Et puis elle a dit, oui, c'était dimanche matin, effectivement. Tu vois? Tu vois ce qui arrive avec ceux qui remplacent l'église par le sport? Hein? Punition de Dieu, quoi. Tu as été puni, là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons célébrer la réforme. C'est pourquoi nous devons célébrer les 500 ans de la réforme protestante. Parce que ceux qui prêchent l'évangile de cette manière, ils sont au moins 2000 ans en retard depuis la mort de Jésus. Ou sinon, au moins 500 ans en retard. Parce que la réforme protestante est venue nous rappeler que c'est Christ seul. Christ seul, Christ seul, Christ seul. C'est cette expérience de l'amour de Jésus qui nous transforme de l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul il dit. Hein? Il dit que l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous presse. Ce n'est pas la menace de Christ qui nous presse. Ce n'est pas la peur du châtiment de Dieu qui nous presse. Ce n'est pas la peur de la punition de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Christ seul, Christ seul, Christ. Ma prière, c'est que tu puisses non seulement croire à cet amour, mais que tu puisses t'approprier cet amour et te reposer dans ce merveilleux amour. Amen.